Les archives d'Afrique, Alain Focat.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Si les gens savent ce que c'est qu'être musulman, l'islam, au fond, n'est-ce pas, c'est une religion qui n'accepte pas d'intermédiaire. C'est ça, n'est-ce pas, la vérité. Il n'y a pas d'intermédiaire. En islam, il n'y a pas de...
D'église.
Il n'y a pas d'église. Il n'y a pas de curé, disons. Au fond, n'est-ce pas, c'est ça. Bon, il est certain que mon projet, ça, cela heurte les confréries. Et je comprends, n'est-ce pas, que par conséquent, les chefs de confrérie me considèrent comme un adversaire dangereux.
Il est certainement l'une des personnalités marquantes de l'histoire contemporaine du Sénégal. Il était de tous les combats et rendez-vous qui ont abouti à l'indépendance de la jeune nation en 1960. Pourtant, Mamadou Dia aura finalement connu un destin singulier, tragique, dans ce pays qui l'a conduit avec Léopold Sédar Senghor, son ami de jeunesse, à la souveraineté internationale. Décembre 1962. Dakar est le théâtre de violentes manifestations. Les parlementaires ont été chassés de l'Assemblée nationale par la garde républicaine sur ordre du président du Conseil, Mamadou Dia, contre qui ils se préparaient à voter une motion de censure. Le lendemain, les choses vont rapidement revenir dans l'ordre. Il faut dire qu'entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses.
Aujourd'hui, la capitale du Sénégal a retrouvé son calme. L'on peut parler ainsi d'un calme qui se manifeste par une animation bruyante des grandes journées historiques, et l'anxiété qui se lisait hier sur les visages des Sénégalais a fait place aux larges sourires et aux manifestations de sympathie envers le chef de l'État, le président Léopold Sédar Senghor. Il y a eu ce matin à 11h une séance de l'Assemblée nationale qui a pu siéger cette fois en toute liberté et non pas comme hier où le président Lamine Gueye et les députés furent chassés par les gardes républicains fidèle pour quelques heures encore à l'ex-président Dia. Une foule considérable s'était massée aux abords de l'Assemblée où les 54 députés présents ont voté à l'unanimité l'article unique portant modification de la Constitution sénégalaise.
Par dérogation aux articles 25, 53, 66 de la Constitution fixant les pouvoirs et les attributions du président du Conseil, le chef de l'État devient chef de l'exécutif. Deuxièmement, il faut soumettre au référendum un projet de révision constitutionnelle après avis du président de l'Assemblée nationale, du Conseil des ministres et d'une commission spéciale de l'Assemblée nationale.
Mais revenons à la journée d'hier qui fut palpitante au possible. À 10h du matin, M. Mamadou Dia tente d'empêcher que le vote de la motion de censure ait lieu en faisant investir le palais de l'Assemblée nationale. À 11h, des éléments de la gendarmerie et de la police armée viennent occuper l'immeuble de la radiodiffusion. À 13h45, l'ex-ministre de l'Information, M. Alioune Tall, fait alors une déclaration sur la gravité des événements et annonçant pour 20h une importante déclaration de M. Mamadou Dia. À 15h45, la radiodiffusion est toujours aux mains des forces de gendarmerie. Puis brusquement, à 16h, les parachutistes sénégalais font irruption dans l'immeuble de la radio. Le directeur de cabinet du chef de l'État, Lamine Diakaté, convoque alors le personnel qui manifeste bruyamment sa sympathie pour le président Léopold Sédar Senghor. La situation est donc renversée. À 18h, alors que la cause semble être gagnée, des éléments fidèles à l'ex-président du Conseil, aidés par la gendarmerie, réoccupent les locaux de la radio et mes collègues journalistes et le directeur du service technique sont donc prisonniers. À 19h45, avertis de la situation, messieurs Lamine Diakaté et Gabriel Darboussier, escortés de paras, armés, pénètrent à leur tour à la radio et essaient de parlementer avec les gardes mobiles. C'est alors que le message du chef de l'État est en partie diffusé. Réaction des éléments fidèles à Mamadou Dia qui arrivent au studio dans la salle technique et qui tronquent la déclaration du chef de l'État. Après quelques minutes d'interruption, ils diffusent celle de l'ex-président du Conseil. Une minute après, la haute tension est coupée et la radio n'émettra plus jusqu'au lendemain matin, les émetteurs étant gardés par les parachutistes fidèles au président Senghor. À 22h30, le directeur de l'information et son adjoint intiment l'ordre à un technicien européen de saboter les installations. Celui-ci refuse. À 23h30, le colonel Diallo, rallié à la cause du président Senghor, parlemente avec l'ex-général Fall, chef d'état-major général de l'armée, destitué de ses fonctions. À 2h30 ce matin, les forces de gendarmerie se rallient enfin aux forces de l'ordre. À 5h, une équipe de la rédaction, protégée par des paras, se rend à Rufisc, au centre émetteur, où a lieu la première émission d'information et d'où l'on peut diffuser alors intégralement le message du président de la République. À 8h, le nettoyage était fait à l'intérieur de l'immeuble de la radiodiffusion et toute la matinée, nous avons pu diffuser enfin des informations consacrées à ces événements. À l'heure où je vous parle, une foule évaluée à plusieurs dizaines de milliers de personnes venues de Médina et de l'intérieur du pays, cette foule est massée devant le palais de la présidence pour manifester son loyalisme au chef de l'État qui va s'adresser à elle.
Cette clameur que vous entendez, c'est celle de cette foule évaluée à plusieurs dizaines de milliers de personnes qui vient de s'élever au moment où apparaît le président Senghor sur une terrasse de son palais sous l'immense drapeau vert, jaune et rouge surmonté de l'étoile à cinq branches, emblème de la République.
Dans l'après-midi du 18 décembre 1960, un commando de parachutistes se présente donc à la résidence de la Médina de Mamadou Dia, qui la rejoint au petit matin, avec un mandat d'arrêt de la Haute Cour de Justice. Exit Dia, l'ami politique de Léopold Sédar Senghor. Arrêté en même temps que quatre de ses ministres, l'ancien président du Conseil est conduit au petit palais sur la corniche de Dakar avant d'être transféré au centre pénitentiaire de Kédougou, dans l'est du pays. Cette journée de décembre 1960, dont on ne retient au départ que la destitution du président du Conseil de la République du Sénégal, sonne également la fin d'une amitié de 17 ans entre Léopold Sédar Senghor et Mamadou Dia, pour qui commence une longue traversée du désert. Puisque quelques mois plus tard, au mois de mars 1963, Mamadou Dia va comparaître devant un tribunal un peu particulier pour un motif assez singulier.
Mamadou Dia, ex-président du Conseil, déportation perpétuelle. Ibrahim Assar, Valdiodio Ndiaye, Joseph Mbaye, ancien ministre, 20 ans de détention. Alioune Tall, ex-ministre, 5 ans d'emprisonnement et 10 ans d'interdiction de droit civique. Tel est le verdict rendu cet après-midi par la Haute Cour de Justice. Ainsi, le rideau tombe sur un procès, peut-être moins celui d'un homme de parti que celui d'un système. Un procès entre la Constitution et la primauté du parti. Dans son réquisitoire, nuancé, d'une grande modération, le procureur général, M. Ousmane Camara, avait dit hier, entre ce que Mamadou Dia croyait légal en se basant sur la suprématie du parti et ce qu'est la loi, il y avait un procès. Aujourd'hui, dans l'histoire du Sénégal, la légalité l'a emporté en toute justice sur la primauté du parti. Ici Dakar, Radiodiffusion du Sénégal.
Mamadou Dia naît en 1910 à Kombolé, sur le trajet du chemin de fer après Thiès. Mais cette date de naissance que retient l'historiographie, il ne l'a jamais considérée comme exacte. Parce que selon lui, les papiers de son père qu'il a retrouvés indiquent qu'il est né en juillet 1911, mais que par ruse, un enseignant l'a vieilli d'un an pour qu'il puisse rentrer plus tôt à l'école. Mamadou Dia est issu d'un métissage tout couleur et sérère.
De par mon père, je suis tout couleur, c'est-à-dire natif, originaire donc de la vallée du Sénégal. Les tout couleurs, ce sont les premiers islamisés du Sénégal, sinon de l'Afrique noire. Rien que le nom de Elhadji Omar, je crois, n'est-ce pas, est significatif à cet égard. Donc, j'appartiens à une famille, du côté de mon père, une famille de tout couleur, islamisée depuis longtemps, des marabouts tout couleur. J'ai même un de mes aïeux qui avait même une réputation de sainteté. Évidemment, je serai marqué toute ma vie par cette ascendance. Mais du côté de ma mère est sérère, originaire de la région du Baol en partie, et même de la région du Cap-Vert aussi, du côté de sa mère, elle. Mais du côté de son père, originaire de la région du Baol. Et les sérères, au contraire, ce sont de grands animistes. C'est le cas de, n'est-ce pas, de la famille de mon ami Senghor. Alors oui, donc je suis déjà ce mélange, le produit de cette rencontre entre l'islam et l'animisme.
Mamadou Diaf, fort de ce mélange, va quitter sa région natale pour rentrer à l'école à Saint-Louis du Sénégal.
C'est la première fois, n'est-ce pas, que je suis expatrié, que je quitte ma brousse natale. Après, évidemment, un petit séjour à Djorbel, 3 ans, mais je n'étais pas complètement dépaysé puisque je vivais encore avec ma sœur et mon beau-frère. Mais ce sera à Saint-Louis du Sénégal, alors que je vais être pour la première fois dépaysé. Et à l'époque, il n'y avait pas de bourse d'internat, nous n'étions pas des internes. Nous avions des bourses d'externat et de petites bourses, des bourses très modiques. Et pour la première fois, un petit paysan de brousse qui sort, qui se trouve du coup du jour au lendemain transplanté dans un milieu urbain, Saint-Louis, la capitale du Sénégal, c'était encore d'autres mœurs. C'est encore une autre civilisation, même une autre culture. Je tiens à dire que je dois beaucoup, sur le plan culturel et sur le plan spirituel, justement, à mon passage à Saint-Louis.
En effet, il s'adapte très vite à cette nouvelle culture acquise dans la célèbre ville de Saint-Louis. Il va même, malgré le retard qu'il a accusé en démarrant par l'école coranique, rattraper ses petits camarades. Quelque temps après, Mamadou Dia rentre à la célèbre école William Ponty. Le laboratoire, le passage de tous les grands cadres francophones africains de l'Ouest à cette époque-là. C'est dans cette institution qu'il prend véritablement contact avec la vie moderne, avec la civilisation occidentale. Il en sortira 3 ans plus tard, en 1930, comme tous ses camarades, avec le diplôme d'instituteur stagiaire. Il est affecté à Saint-Louis du Sénégal, justement.
La France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre. Des gouvernements de rencontre ont pu capituler, cédant à la panique, oubliant l'honneur, livrant le pays à la servitude. Cependant, rien n'est perdu. Rien n'est perdu parce que cette guerre est une guerre mondiale. Dans l'univers libre, des forces immenses n'ont pas encore donné. Un jour, ces forces écraseront l'ennemi. Il faut que la France, ce jour-là, soit présente à la victoire. Alors, elle retrouvera sa liberté et sa grandeur. Tel est mon but, mon seul but. Voilà pourquoi je convie tous les Français, où qu'ils se trouvent, à s'unir à moi dans l'action, dans le sacrifice et dans l'espérance. Notre patrie est en péril de mort. Luttons tous pour la sauver.
1939, la guerre éclate en Europe. Dès l'année suivante, à l'appel du général de Gaulle, la colonie va fournir à la métropole des milliers de soldats, les célèbres tirailleurs sénégalais.
Feu !
Ma longa fidèle, matricule 780 dans l'armée. Je suis ancien combattant, engagé volontaire dans l'armée française. Nous avons fait la guerre. Chez nous, les héros de Birakem. Héros de Birakem. J'ai dit bien que le 27, on nous a attaqué avec les chars et notre batterie a démoli 45 chars. On nous a envoyé maintenant la France libre. Allez-vous occuper là, le point d'eau qu'on appelle Birakem. Moi, je croyais que Birakem, c'est un village. C'est là où j'ai traité mon capitaine, mais mon capitaine, vous êtes tous. Les blancs sont des sauvages. Il n'y a rien. Même pas un herbe comme ça. À cette longueur, il n'y en a pas.
À cette guerre qui mobilise des milliers d'Africains, Mamadou Dia ne participe pas. Il n'est heureusement pas de la campagne. Il va rejoindre en 1943 Fatick, où on lui confie la direction de l'école régionale. Il se passionne pour son métier d'enseignant et ne s'intéresse pas du tout à la politique. Léopold Sédar Senghor, intellectuel connu, jeune agrégé de français, vient à Fatick pour présenter sa candidature à la députation. Mamadou Dia l'interpelle sur la place du marché pour l'en dissuader.
Quand Sango est arrivé pour se présenter aux élections de 1947, j'ai trouvé que vraiment que c'était lui qui était professeur agrégé. Je pensais que son rôle devrait au contraire d'essayer de faire quelque chose pour l'enseignement, pour la libération de l'enseignement. Et moi, je voyais plutôt Senghor comme recteur d'académie.
De l'AOF à cette époque.
Non, recteur de l'académie de l'AOF à cette époque-là. J'ai dit, un intellectuel, n'est-ce pas, de cette envergure-là, qui vient échouer dans la politique, j'ai dit, ça, c'est du gâchis. D'ailleurs, après, il s'en est expliqué avec moi, et là, il a réussi d'ailleurs à me convaincre.
Il faut dire que Mamadou Dia, à cette période, a eu une idée bien arrêtée de la politique.
Que je considérais que j'avais des préjugés terribles contre la politique. Je considérais que la politique, c'est une affaire de prostituée. Je considérais que c'est une affaire sale. Et que un homme sérieux, ne devait pas faire de la politique.
Réticent à l'engagement politique, Mamadou Dia est engagé dans le combat d'idées. Il écrit pour les journaux. Ses articles portent sur les questions économiques. Il y explique notamment que la voie idéale pour l'émancipation des paysans est leur organisation en coopérative, une idée qui va marquer longtemps sa pensée. C'est en 1948 qu'il se décide à rentrer dans l'arène politique. À cette période, il est en relation avec la SFIO, la section française de l'Internationale ouvrière, l'ancêtre du Parti socialiste français. Il est convaincu par les camarades de sa ville, mais surtout par Léopold Sédar Senghor, qui va le parrainer.
Nous étions donc déjà sur le chemin de la négritude. Et pour nous, c'était la négritude vécue, comme je l'ai dit. Ce n'était pas la négritude parlée, ce n'était pas la négritude chantée. C'était vraiment la négritude vécue et la négritude sans le mot. C'est ce qui explique que, en 1937, quand Senghor, jeune agrégé, vient à la Chambre de commerce de Dakar pour faire une conférence intitulé « Assimiler ».
Et ne pas être assimilé.
Et ne pas être assimilé. Vous comprenez, c'était un sujet qui ne pouvait que nous emballer. Nous étions déjà sur cette ligne-là. Et alors, c'est donc cette conférence-là de Senghor allait trouver un écho en nous. Pourquoi donc bon, j'ai été attentif, n'est-ce pas, à cette première rencontre avec Senghor.
Mamadou Dia est élu au Conseil général en 1946. C'est sa grande entrée en politique. Mais rapidement, il va faire face au sein de la SFIO à une opposition de Lamine Gueye, qui tient la direction fédérale. Mamadou Dia est l'animateur du groupe de résistance qui, avec Senghor, constate l'hégémonie des leaders noirs inféodés au parti métropolitain. Avec Senghor, donc, ils vont fonder en 1949 le Bloc démocratique sénégalais, le BDS. C'est avec ce mouvement qu'il conduit sur le terrain pendant que Senghor développe sa base parlementaire parisienne, la présence intellectuelle africaine, qu'il est élu sénateur du Sénégal, puis député avec Senghor de l'Assemblée nationale française en 1956. Il siège au sein de l'IOM, les indépendants d'outre-mer.
J'ai été, je l'ai dit, contre l'arrivée de De Gaulle au pouvoir. D'abord, en raison des conditions dans lesquelles De Gaulle est arrivé au pouvoir, sur la pression des militaires d'Algérie, des militaires putschistes d'Algérie, qui ne voulaient pas de l'indépendance de l'Algérie. Pour moi, évidemment, ça c'était un fait significatif.
23 juin 1956, à l'initiative de Gaston Defferre, ministre français d'Outre-mer et maire de Marseille, un texte dit « Loi cadre Gaston Defferre » est adopté à l'Assemblée nationale. Elle habilite le gouvernement à statuer par décret dans un domaine réservé en principe à la loi. Elle crée dans les territoires d'outre-mer des conseils de gouvernement élus au suffrage universel, ce qui permet au pouvoir exécutif local d'être plus autonome vis-à-vis de la métropole. Toutefois, le mode de scrutin reste défavorable aux habitants locaux. Elle crée aussi le collège unique, alors que jusque-là, les habitants étaient repartis en deux collèges, selon leur statut civil, de droit commun ou de droit local. Des dispositions contre lesquelles s'insurge Mamadou Dia. C'est l'un de ses premiers engagements contre les choix opérés à Paris pour les populations du Sénégal, comme nous allons le voir dans une dizaine de minutes, dans la suite de cette série d'archives d'Afrique, spéciale Mamadou Dia. On se retrouve juste après une nouvelle édition du journal dans une dizaine de minutes. Restez à l'écoute.
Les archives d'Afrique, à la Foka.
Bonjour et bienvenue, si vous nous rejoignez seulement maintenant, dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
J'avais des préjugés terribles contre la politique. Je considérais que la politique, c'est une affaire de prostituée. Je considérais que c'est une affaire sale. Et que un homme sérieux, ne devait pas faire de la politique.
Suite de notre série d'archives d'Afrique consacrée à Mamadou Dia, qui malgré ses préjugés sur la politique, a fini par en faire, par en devenir accro au point d'occuper dès le début des années 50 les postes les plus importants à la tête du Sénégal qui avançait vers l'indépendance. Converti par Léopold Sédar Senghor, il va tour à tour être élu conseiller général en 1946, sénateur du Sénégal en 1949, député à l'Assemblée française en 1956. Il va donc vivre l'arrivée du général de Gaulle à la tête de la France qui se remet difficilement de la guerre.
J'ai été, je l'ai dit, contre l'arrivée de de Gaulle au pouvoir. D'abord en raison des conditions dans lesquelles de Gaulle est arrivé au pouvoir, sur la pression des militaires putschistes d'Algérie, qui ne voulaient pas de l'indépendance de l'Algérie. Pour moi, évidemment, ça c'était un fait significatif.
Devant le vent de liberté qui souffle en Algérie, devant le désir d'indépendance qui grandit dans les colonies, dans les territoires qui ont combattu aux côtés de la métropole pour la libérer du joug du nazisme, le général de Gaulle entreprend une longue tournée en Afrique et Madagascar pour proposer un référendum pour entériner, pour adopter un nouveau statut, une nouvelle organisation de la France avec ce que l'on a appelé son empire, la communauté.
Dans cette organisation nouvelle, Madagascar aura à exercer par ses propres moyens son administration, son gouvernement intérieur. Et si Madagascar le veut, la Grande Île mettra, comme les autres territoires, à l'intérieur de la communauté, un même domaine pour la défense, pour la politique étrangère, pour la politique économique, pour la politique des matières premières, et aussi, dans certaines conditions, pour la justice, l'enseignement et les communications. En disant oui à ce qui est demandé, vous vous engagerez avec la France et les autres territoires pour un grand avenir, je le répète. Et je suis sûr de votre réponse.
Le général de Gaulle peut en effet être sûr à ce moment-là de l'adhésion des populations préparées par des leaders qui lui sont quasiment tous acquis. C'est donc une tournée sans grande surprise qui se prépare. Une tournée qui passe quasiment par toutes les capitales des pays appartenant à sa sphère.
Nous sommes convaincus que vous êtes venus aujourd'hui pour achever l'œuvre entreprise à la conférence de Brazzaville et consacrer définitivement par un engagement solennel une AEF en marche vers son indépendance, mais toujours unie à la France indépendante et immortelle. Vous êtes donc, Monsieur le Président, l'homme dont la destinée est de calmer la tempête. Nul n'ignore que la tempête qui nous menace est de deux sortes. Dans la métropole, vous avez à réformer les institutions, à relever l'autorité de l'État et le prestige de la nation, à redresser la situation financière. En Afrique, vous avez à calmer le vent d'indépendance qui souffle sur tous les territoires. Aujourd'hui, comme en 1940, vous êtes notre dernière chance. Aujourd'hui, comme en 1940, c'est de vous que nous attendons le salut. Aujourd'hui, comme en 1940, l'AEF a hâte d'entendre votre voix. Parlez, Monsieur le Président, parlez sans équivoque. Nous répondrons de même le 28 septembre. Vive de Gaulle, Vive la République!
Le général de Gaulle qui quitte Bangui, la capitale de l'Oubangui-Chari, actuelle Centrafrique, après ce fort soutien de l'abbé Barthélemy Boganda, va recevoir le même accueil sur tout son trajet. Du moins, jusqu'en Guinée, où l'attend le bouillant Sékou Touré.
Il n'y a pas de dignité sans liberté. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Notre cœur, notre raison, en plus de nos intérêts les plus évidents, nous pouvons choisir sans hésitation l'interdépendance et la liberté dans cette union plutôt que de nous définir sans la France et contre la France.
Piqué au vif, le général qui ne s'attendait pas à un tel accueil réagit avec la même violence.
Cette communauté, la France la propose. Personne n'est tenu d'y adhérer. On a parlé d'indépendance. Je dis ici, plus haut encore qu'ailleurs, que l'indépendance est à la disposition de la Guinée. Elle fait la France le 28 septembre en disant non à la proposition qui lui est faite. Et dans ce cas, je garantis que la métropole n'y fera pas obstacle. Elle en tirera bien sûr les conséquences. Mais d'obstacle, elle n'en fera pas. Et votre territoire pourra, comme il le voudra, dans les conditions qu'il voudra, suivre la route qu'il voudra. Si la Guinée répond oui, c'est que librement, d'elle-même, spontanément, elle accepte la communauté qui lui est proposée. Et si la France, de son côté, oui, car il faut aussi qu'elle le dise, alors les territoires d'Afrique et la métropole pourront faire ensemble cette œuvre nouvelle qui sera faite par l'effort des uns et des autres pour le profit des hommes qui les habitent.
Cet échange va précipiter l'indépendance de la Guinée dans des conditions difficiles. Mais ceci est une autre histoire. Toujours est-il que cet épisode a fait tache d'huile, puisque dans d'autres nations, on écoute en boucle, dans certains milieux, l'échange qui a réussi à mettre hors de lui le président français. Dans d'autres pays, fleurissent quelques pancartes qu'il n'avait pas encore vues sur son parcours.
Je veux dire un mot d'abord aux porteurs de pancartes. Je veux leur dire ceci. Ils veulent l'indépendance. Qu'ils la prennent le 28 septembre. Oui, l'indépendance, que les porteurs de pancartes la prennent le 28 septembre prochain. Mais s'ils ne la prennent pas, alors qu'ils fassent ce que la France, l'Europe, la communauté franco-africaine. Qu'ils la fassent en toute indépendance de l'Afrique et de la France. Qu'ils la fassent avec moi. Qu'ils la fassent pour le meilleur et pour le pire. Qu'ils la fassent dans les conditions que j'ai évoquées d'une manière précise, en particulier l'autre jour à Brazzaville, et dont je n'admets pas qu'on paraisse douter de leur précision ni de leur sincérité. Nous sommes à l'époque de l'efficacité, de l'efficience. Nous sommes à l'époque des ensembles. Nous ne sommes pas à l'époque des démagogues. Qu'ils s'en aillent, les démagogues, là où on les attend. J'ai dit ce que j'avais à dire. Je l'ai dit à Dakar comme ailleurs. Je salue Dakar et le Sénégal depuis 300 ans, liés à la France et réciproquement. Je salue l'Afrique. L'Afrique qui est libre. L'Afrique pour la liberté de laquelle l'homme qui vous parle a fait tout ce qu'il a pu et est prêt à continuer de le faire.
Lorsque le général de Gaulle lance cette idée de référendum pour la communauté, Mamadou Dia y est opposé. Il ne partage absolument pas cette option. Il veut voter pour le non comme la majorité de ses camarades du BDS, le Bloc démocratique sénégalais. Mais il va tomber des nues dans une entrevue à Gonneville-sur-Mer en Normandie, lorsque son ami, son allié, Léopold Sédar Senghor, va lui avouer qu'il va militer en faveur du oui, qu'il a pris des engagements, qu'il a fait des promesses au gouvernement français, qu'il s'est engagé à faire voter oui aux siens.
Ma disposition d'esprit, c'était de voter non. C'était de voter non, pour les raisons que je viens d'exposer. Et parce que je considérais que nous avions suffisamment de cadres au Sénégal pour prendre notre indépendance. Et j'avais déjà, comme secrétaire général du parti à l'époque, fait à Lugano, où j'étais en congé, j'avais déjà fait un rapport, n'est-ce pas, qui concluait au vote négatif. Donc, j'ai été amené à modifier les conclusions de ce rapport à la suite des manifestations de Dakar qui nous ont gênés, je n'étais pas là, n'est-ce pas, et à la suite de l'entretien que j'ai eu aussitôt avec Senghor à Gonneville-sur-Mer.
C'est ça, vous évoquez
le fameux entretien que j'ai eu,
qui
a duré 4 ou 5 heures de temps. Nous avons échangé des arguments. Bon, il était d'ailleurs convaincu que j'avais raison. Finalement, il a fini par lâcher, n'est-ce pas, en me disant, l'aveu, bon, j'ai promis au gouvernement français. Alors j'ai expliqué que je ne pouvais pas, c'était grave de me séparer, n'est-ce pas, de lui, dans une telle circonstance. Ce n'est pas d'ailleurs pour des raisons sentimentales, hein, comme certains d'ailleurs le pensent. C'est pour des raisons politiques, mûrement réfléchies.
Le Sénégal va donc voter oui au référendum de 1958. Mais ce référendum constitue le premier accroc dans la relation avec son ami Léopold Sédar Senghor, puisque Mamadou Dia va obtenir le ralliement du parti au prix d'une cassure avec un groupe de jeunes intellectuels tels que Abdoulaye Ly, Hassan Seck, Martar Beau. Mais Mamadou Dia reste proche de la gestion des affaires du pays. Il est de tous les rendez-vous importants du Sénégal.
Permettez-moi de vous remercier tout personnellement, Monsieur le Président, d'avoir apporté une contribution personnelle extrêmement forte à la préparation de ce texte et faire en sorte que ce premier texte puisse avoir de nombreuses conséquences.
Monsieur le Ministre, Messieurs, laissez-moi vous remercier très simplement d'avoir activé la signature de cette première convention d'assistance technique. Je sais la part personnelle que vous avez prise à l'élaboration de ce projet et je tiens à vous en remercier personnellement. Je veux aussi vous remercier au nom de la République du Sénégal tout entière, vous remercier et remercier aussi le gouvernement de la République pour cet effort, cette manifestation de coopération, d'assistance technique.
Après le référendum de 1958, ils sont un certain nombre en Afrique de l'Ouest, les leaders qui rêvent d'un regroupement qui les rendrait plus forts, plus solides face aux autres régions. Au Soudan voisin du Sénégal, Modibo Keïta rêve d'une fédération regroupant plusieurs territoires d'Afrique de l'Ouest. Projet combattu par le président Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire. Mais Modibo Keïta n'est pas intimidé par le poids politique du président Félix Houphouët-Boigny. Il va entamer une longue campagne pour tenter de rallier quelques partenaires à cette idée. Modibo Keïta.
La délégation du Mali a été guidée dans ses négociations par le souci de sauvegarder sa liberté d'action en ce qui concerne la possibilité de l'unité africaine. Et c'est ainsi que nous avons renoncé à la frappe d'une monnaie malienne pour conserver le franc CFA qui constitue le seul élément de liaison des anciens États de l'ancienne AOF.
Avec la crise qui éclate à nouveau au sein du RDA, le Rassemblement démocratique africain, s'organise à Bamako en 1959 la conférence dite des fédéralistes. Elle réunit le Soudan, le Dahomey, la Haute-Volta et le Sénégal. Le but est de mettre en place les modalités de création d'une fédération regroupant les quatre États. Le 17 janvier 1959, les quatre nations proclament à Dakar la création d'un État fédéral qu'ils baptisent Fédération du Mali. Sous la pression constante de la Côte d'Ivoire, dont le poids économique et politique dans la sous-région est importante, le Dahomey et la Haute-Volta ne tardent pas à quitter la jeune fédération. Restés seuls, le Sénégal et le Mali mettent en place les institutions qui vont régir leur fédération. Alors se pose la question de savoir qui va diriger le gouvernement fédéral. Les rivalités entre Léopold Sédar Senghor et Modibo Keïta ne facilitent pas les choses. En coulisses, un bruit court selon lequel les Soudanais ne veulent pas d'un président qui ne soit pas musulman. Un argument qui barre la route à Léopold Sédar Senghor qui va aussitôt proposer à Mamadou Dia, son compagnon de route, de prendre sa place. Lui, le musulman. Ce qu'il n'a pas accepté par solidarité à Senghor. Le bras de fer était donc désormais engagé. Les initiateurs de cette idée de fédération avaient sous-estimé la fibre nationaliste qui, malgré leur volonté, prévalait dans les deux pays. Mamadou Dia, qui a la haute main sur le ministère de l'Intérieur, a été informé du projet de Modibo Keïta de le destituer. Chacun, à sa manière, affûte ses armes. Mais comment va se terminer ce bras de fer qui oppose désormais les initiateurs de ce qui devait être l'embryon de l'unité africaine qui commence à séduire les Africains? Quel va être le destin de Mamadou Dia qui est au centre de ces tensions? Nous en parlerons la semaine prochaine à la même heure dans la suite de cette série d'archives d'Afrique que nous lui consacrons. Vous pouvez évidemment d'ores et déjà réécouter cette émission sur le site de RFI ou sur archivesdafrique.com ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur iOS ou sur Google Play. Vous pouvez également continuer de réagir comme vous le faites sur notre page Facebook, la première sur notre antenne, avec ses 600 000 amis. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour la suite de cette série d'Archives d'Afrique spéciale Mamadou Dia. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À très vite.